À l'écoute des RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile, journal que je vous présente toujours avec le même plaisir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une ce soir, l'Arménie qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise politique. Dernier épisode en date, le refus du président arménien de limoger le chef d'état-major. Il avait critiqué le Premier ministre pour sa défaite dans la guerre au Haut-Karabakh.
Donald Trump de retour dans l'arène politique aux États-Unis. Il est attendu à la tribune du CPAC, la grand-messe des Républicains à Orlando. Ce sera sa première prise de parole depuis son départ de la Maison-Blanche.
Et puis nous irons à Hong Kong également dans ce journal. Une cinquantaine de militants pro-démocratie inculpés de complot ce dimanche en vertu de la nouvelle loi de sécurité nationale. C'est ce que nous dira notre correspondante sur place.
Les journaux.
Le journal en français facile.
En français facile.
Et tout d'abord, cette nouvelle aggravation de la situation, de la crise politique qui secoue l'Arménie depuis la fin de la guerre perdue au Haut-Karabakh en novembre dernier.
Oui, ce jeudi, l'état-major appelait à la démission du Premier ministre Nikol Pachinian. En réponse, celui-ci avait appelé à manifester contre ses opposants, se rendant lui-même dans la rue. Nikol Pachinian, qui avait aussi annoncé le limogeage du chef d'état-major, un ordre que le président a refusé hier après-midi de signer. Et Anissa El-Jabri, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État intervient sur la scène politique.
Armen Sarkissian utilise toutes les possibilités que lui offre un rôle essentiellement honorifique, scientifique, entrepreneur, ex-diplomate, créateur du jeu Tetris. Il est aussi un des rares hommes politiques à disposer d'un socle de popularité en Arménie. Armen Sarkissian était intervenu une première fois, c'était juste après les troubles qui avaient suivi l'annonce de la fin de la guerre, mise à sac du bureau du Premier ministre et du Parlement notamment. Le président avait proposé d'aider à la constitution d'un gouvernement d'unité nationale avant de revenir sur son initiative trop tôt sans doute. Cette fois, le chef de l'État intervient sur deux terrains juridiques. Il juge le limogeage inconstitutionnel, politique. Dans son communiqué rendu public hier, Armen Sarkissian affirme « La crise ne peut pas être résolue par des changements fréquents de responsables », manière de souligner en creux les nombreux départs du gouvernement de ministres d'envergure, la fragilité de la position de Nikol Pachinian. La pression sur les épaules du Premier ministre ne cesse donc de s'accentuer. Sont tués. Parvenu au pouvoir après une révolution dite de velours en mai 2018, Nikol Pachinian risque chaque jour un peu plus de devoir céder pour des législatives anticipées.
Anissa El-Jabri, le Premier ministre Nikol Pachinian, qui a indiqué qu'il renverrait cet ordre à la présidence, soulignant que sa décision n'avait pas du tout désamorcé la crise.
À la une également les États-Unis et le retour de Donald Trump sur le devant de la scène politique.
Mais l'ex-président américain est attendu d'ici une demi-heure. Hier au CPAC, la grand-messe des Républicains à Orlando. C'est la première fois qu'il prendra la parole en public depuis son départ de la Maison-Blanche. Selon certains médias, il pourrait en profiter pour annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2024.
Des élections justement, Loïc, municipales et législatives, ça se passe ce dimanche au Salvador.
En tout, 5 400 000 électeurs sont appelés aux urnes pour un scrutin en forme de référendum pour ou contre le président Nayib Bukele. Élu il y a presque 2 ans et accusé d'autoritarisme par ses opposants, le président prétend combattre la corruption et son parti Nuevas Ideas, Nouvelles Idées, a toutes les chances d'emporter la majorité des sièges, ce qui suscite des inquiétudes. C'est l'analyse de Saul Bagnos, directeur de la Fondation salvadorienne d'études pour l'application du droit.
C'est un scénario où il y aura probablement une concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul parti politique. Depuis 1992 jusqu'à présent, on n'avait jamais connu un scénario pareil. Le pouvoir était distribué de façon équitable entre les 3 piliers de l'État. L'exercice de contrôle des pouvoirs et contre-pouvoirs fonctionnait. Mais si l'Assemblée législative est dominée à la majorité simple ou qualifiée par des députés proches du président Bukele, celui-ci aura la la possibilité de nommer des magistrats de la Cour suprême. Et puis c'est l'Assemblée nationale qui doit à la fin de l'année nommer le procureur général de la République. Et en raison du type de comportement qu'a eu le président au cours de ces presque 2 années de gouvernement, souvent très autoritaire et pas dans la conciliation, s'il obtient la majorité à l'Assemblée, il pourra abroger, approuver ou réformer des lois à sa convenance.
Saúl Baños, le directeur de la Fondation salvadorienne d'études pour l'application du droit, joint par Lucille Gimbert.
RFI, il est 4h05 à Hong Kong. L'actualité dans le monde, ce sont aussi ces inculpations dont l'ancienne colonie britannique. Près d'une cinquantaine de militants pro-démocratie sont accusés de complot en vertu de la loi de sécurité nationale.
Il s'agit précisément du groupe d'opposition, du groupe d'opposants plutôt au gouvernement qui avait été interpellé au début du mois de janvier en lien avec leur rôle dans les primaires de l'opposition organisées l'été dernier. Ils avaient tous été relaxés 36 heures plus tard en échange toutefois de leur passeport et d'une caution, à l'exception de ceux qui étaient déjà en prison comme le jeune leader Joshua Wong ou le mania de la presse Jimmy Lai. Elle les détaille avec notre correspondante sur place, Florence de Changy.
La police de Hong Kong a annoncé aujourd'hui que 47 des 55 interpellés début janvier, 39 hommes et 8 femmes âgées de 23 à 64 ans, ont à présent été inculpés au nom de la redoutable loi politique sur la sécurité nationale. Cette loi a été imposée à Hong Kong par Pékin en juin 2020 comme sanction au mois de désordre et de chaos qui avait régné pendant toute la seconde moitié de l'année 2019. Ils sont accusés de complot en vue de commettre un acte de subversion, l'un des 4 crimes couverts par la loi sur la sécurité nationale, des crimes passibles de peine de prison à perpétuité. Pourtant, ce qu'on leur reproche n'est que l'organisation de primaires non officielles en juillet 2020, mise au point dans le but d'optimiser les résultats de l'opposition législative qui devait avoir lieu en septembre 2020 et qui finalement ont été suspendues. L'Union européenne a fait part de sa grande inquiétude, estimant que ces accusations montraient que le pluralisme politique n'était plus toléré à Hong Kong. L'Europe a réclamé la libération immédiate des accusés retenus en détention. Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
En bref, la situation en Birmanie où les militaires au pouvoir intensifient la répression des manifestants pro-démocratie.
Oui, avec un bilan humain lourd aujourd'hui, au moins 8 personnes tuées, plusieurs blessées et des centaines arrêtées par les forces de sécurité venues disperser les rassemblements de ceux qui dénoncent le coup d'État du 1er février.
La pandémie de Covid-19 et cette annonce du Royaume-Uni concernant la vaccination.
Et Londres dit avoir franchi la barre des 20 millions d'injections. Le pays affiche dans le même temps une baisse des contaminations de 21% ces 7 derniers jours. Par ailleurs, en France, les habitants de la Moselle devront dès mardi présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures pour se rendre en Allemagne. Berlin a classé le département en zone à forte circulation des variants sud-africains et brésiliens du virus.
Et on vous offre un voyage dans le temps pour refermer ce journal. Direction Pompéi en Italie, le seul lieu au monde où l'on peut se plonger dans la vie au temps de la Rome antique.
Et où une équipe d'archéologues vient de découvrir un char d'apparat presque intact à environ 700 mètres au nord de la ville, submergé par l'éruption du Vésuve il y a plus de 2000 ans, Anne Lenir.
Préservé grâce aux propriétés du tuf volcanique, ce char à 4 roues cerclées de fer était enfoui sous le porche de la villa de Civita Giuliana qui appartenait à une richissime famille. Les photos publiées par la direction du parc archéologique de Pompéi permettent de découvrir les vestiges du véhicule agrémenté d'un petit siège à accoudoir. On distingue clairement ces somptueux décors en bronze et en étain, ces médaillons représentant des scènes érotiques, mais aussi des restes de bois minéralisé et des traces de matière organique, dont des cordes et des épis de blé. Selon le directeur sortant du parc archéologique, Massimo Osanna, le char, exhumé avec 1001 précautions, était utilisé pour les moments de fête, notamment les cérémonies nuptiales. D'après cet archéologue, il s'agit d'une découverte extraordinaire pour approfondir la connaissance du monde antique. D'autres chars ont été mis à jour à Pompéi, mais ils sont incomparables à celui de la villa Civita Giulia, qui fera l'objet d'une minutieuse restauration avant d'être présentée au public. Anne Lenire, Rome, RFI.
Et à l'écoute des RFI, les 21h10, ici à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile.
Autour de la question. Caroline.